Je sais pas chez vous, mais chez nous, pour dire ce qu'on veut à Noël, on s'envoie des vidéos. Par exemple, mon fils m'a envoyé une vidéo avec des chiots. Ma fille, un concert de sa chanteuse préférée. Mais pour ça, il en faut des gigas. Surtout si je veux envoyer un documentaire sur les Bahamas à mon mari.
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez de 50 gigas d'internet mobile pour seulement 10 euros par mois pendant un an pour les clients box, puis 25 euros par mois. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition, valable jusqu'au 8 janvier 2018 pour toute nouvelle souscription à forfait Power 50 gigas. Prix multipack sans mobile avec engagement 12 mois.
RMC.
Ils doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire. Donc.
J'espère que la route va vite tourner.
Le Super Football Show.
Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Arnaud Souk.
Entre 3h et même 1 minute, ça va messieurs?
Pleine forme.
On passe en une belle journée d'anniversaire, 41 ans, Pierre Dupont, on le rappelle.
Et puis le cadeau, ça y est, vous m'avez fait, j'ai compris.
C'est quoi?
Bah c'est Simonet qui arrive.
C'est Simonet.
Ah,
Simonet Rovira qui est à tes côtés.
Oui. Mais attends, t'es auguri. Ouais, je peux la passer.
Bah vas-y, vas-y.
Là, t'es
mis, t'as pas amené la scie ou non? T'as pas amené un petit vin pétillant?
Tu m'as pas envoyé un texto, t'as
pas
dit? En fait, moi, je porte du moscato, quelque chose, un panettone, que c'est même la période du panettone.
Mais si on met du passam.
Ça va, Simonet?
Très bien.
Je crois que tes collègues
en
dehors des frontières sont là. Bah oui, mais on a faim, écoute, tu vas attendre minuit. Philippe Auclair est également là. Salut Philippe.
Salut Arnaud, salut à tous et à toutes et joyeux anniversaire. Happy birthday to you, Peter.
Tu vas l'avoir en toutes les langues, c'est génial.
Thank you very much, Mister.
Je crois qu'en allemand on dit Zum Geburtstag.
Ah bah, attends,
Gluck. On va demander à David Lortolari. Salut David.
Voilà. Oui, allô, Freunde. C'est à peu près ça. Zum Geburtstag, viel Glück.
J'aurais pu.
Et vous remarquez que je maîtrise le merci dans toutes les langues, moi.
J'aurais pu t'apporter quelques magnifiques et succulents petits gâteaux des marchés de Noël allemands qui sont vraiment merveilleux. On a
ça. Ça ressemble à ceux qui sont sur les marchés strasbourgeois?
Ouais, ce style-là, mais en plus grand.
Étouffe chrétien, bien beurré.
Pas forcément.
Non.
Avec un petit vin chaud, là. Comment on dit bon anniversaire en espagnol, Fred Armel? Salut, Fred!
Voilà, chicos, on dit tout simplement cumpleaños feliz, Pedro.
Et voilà,
tu l'auras bien. C'est en portugais, mais non, pas en portugais. Gracias,
señor.
Messieurs, les avis tranchés de nos drôles de dames, on va commencer par l'avis de Philippe Auclair. Philippe, tu voulais nous parler ce soir de Manchester City.
Oui, Philippe, je suis la gastronomie, on voulait te laisser ton micro à la base.
Voilà. ça surprend toujours ce jingle. Écoute, oui, Manchester City une fois de plus, mais bon, peut-être un avis tranché un petit peu différent des autres, dans la mesure où je dis le titre sera pour Manchester City, pas United, pour le meilleur et pour le pire. À savoir pour le meilleur, parce que c'est vrai qu'au niveau du jeu qui est proposé, on a eu un nouvel exemple. Moi, j'ai eu la chance, le privilège d'être à l'Etihad pour voir ce match contre Tottenham, où on a vu encore une fois Kevin De Bruyne absolument époustouflant, une prestation collective qui était admirable. Gundogan, et ça, mon cher Lorto, tu entends ça, mais vous allez récupérer un joueur. Je prie pour qu'il ne se blesse pas à nouveau, mais c'est pas moi qui va t'expliquer que c'est un joueur merveilleux, que c'est aussi bon que Toni Kroos. Quand ça se blesse pas. Et on voit une équipe de Manchester City en pleine possession de ses moyens, qui fait des enchaînements à couper le souffle par moment. Mais ça, c'est merveilleux. Mais ce qui est beaucoup moins merveilleux, c'est que du fait, on oublie un petit peu ce qui se passe à côté. Et que le championnat, nous sommes le 18 décembre, et que le championnat maintenant va être une course pour les trois places qui resteront à prendre pour le top 4. Et qu'on voit mal comment il pourrait en être autrement, et que c'est un phénomène auquel on avait assisté dans d'autres championnats, ou qui était dominé par une ou deux équipes, et je pense qu'on peut tous se regarder, ça a été le cas. Il fut un temps en Angleterre où c'était Manchester United et Arsenal. Il fut un temps où en Allemagne c'était Borussia Dortmund et Bayern. Maintenant c'est plus que le Bayern. Il fut un temps où c'était Milan, par exemple, qui était seul devant. Là c'est la Juve qui est seul devant avec Napoli. En Espagne, Fred, tu as vécu ça également avec Barcelone et le Real, et parfois un troisième larron. Mais en Angleterre c'était devenu rare. On avait une vraie compétition pour le championnat entre de 4 à 6 équipes. Et là, nous sommes le 18 décembre. Donc, City est parti pour prendre ce titre, pour le meilleur, pour ce qui est du jeu, et pour le pire, pour ce qui est du suspense.
Et il joue qui pendant le Boxing Day?
Alors écoute, ils ont un programme, il faut que je regarde, mais un programme relativement, j'allais pas dire facile,
Clément.
Clément, on va dire Clément, parce qu'en fait ils ont joué contre toutes les équipes du top 6, Ils ont tout gagné.
D'ailleurs, ils ont gagné tous les matchs.
Ils ont tout gagné. Le seul match nul, c'était contre Everton. Donc, ils ont battu Chelsea, ils ont battu Manchester United, ils ont battu Tottenham, ils ont battu Arsenal, ils ont battu Liverpool. Et parfois, très nettement. Et plus nettement que le score l'indiquait. Il y a un véritable gouffre. Moi, quand j'en parlais en zone mixte avec Christian Eriksen et avec Hugo Lloris, et ils étaient tous les deux à dire, mais c'est un fossé qui existe entre eux et nous. Et ils sont, encore une fois, ils sont tombés les bottes aux pieds, ils ont essayé de jouer leur jeu, Tottenham. D'autres avaient essayé d'être là et de tout recevoir, d'être très passif et en espérant un contre, en espérant un match nul. Ça n'a pas marché. Et l'autre méthode qui est celle de presser haut et de prendre en quelque sorte Manchester City à son propre jeu n'a pas fonctionné, en tout cas pas au niveau du résultat.
Il y a Bournemouth, Newcastle, Crystal Palace et Watford pendant les fêtes.
Bon bah alors, j'ai aucun bémol.
Bournemouth, Crystal Palace sera plus casse-pied que les autres, je pense. Watford vit un mauvais passe en ce moment et Newcastle c'est catastrophique. Donc je pense que tu peux compter sur 10 points sur 12 minimum et peut-être 12 sur 12.
Ouais, peut-être 12 sur 12. Mais Philippe, là, leur force, enfin en tout cas, ce qui nous fait penser aujourd'hui qu'ils y vont tout droit sur le titre, c'est que les passes où ils sont à leur niveau, c'est-à-dire exceptionnels, on n'en parle même pas, ces cycles-là, ils écrasent tout le monde. Et puis le cycle qu'ils ont eu un peu plus difficile, où ils étaient un peu physiquement émoussés, etc., ils ont continué à gagner quand même. Quoi.
Donc, et par 2 buts à 1 à la 92e.
Alors,
c'est incroyable.
Philippe, par rapport à ton avis, on est forcément d'accord, mais quand tu dis pour le pire, j'ajouterais une variable qui peut-être fait que ça sera pas pour le pire. Est-ce que le fait d'être champion très tôt, ça ne permettrait pas à cette équipe qui est quand même magnifique de se concentrer un peu plus de force sur la Ligue des Champions?
Ah oui, Ligue des Champions, je sais pas si. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières cotes en Ligue des Champions, mais c'est complètement hallucinant. Jamais un club n'est arrivé à l'entrée des huitièmes de finale avec une telle cote. Oui. 3 contre 1, c'est complètement ridicule. Il y a 16 équipes en lice, ils sont à 3 contre 1. C'est comme si tout leur était permis. Et je crois qu'on les voit peut-être un petit peu plus beaux qu'ils ne sont. On a tendance à oublier qu'il y a une équipe comme Barcelone qui revient bien, que le Bayern c'est pas mal avec Heinkes, que les autres ils peuvent toujours avoir des surprises, etc. Mais bon, tu as raison, d'une certaine manière, ça va leur permettre de gérer le championnat et de se concentrer sur la Ligue des Champions.
Et deuxième question. Attends, juste une question sur City.
On est au 18 décembre, j'hallucine à dire des choses pareilles.
Alors justement, City.
J'ai entendu dire que Benjamin Mendy pouvait revenir un peu plus tôt. Est-ce que c'est vrai?
Alors écoute, on lui a parlé. Je sais pas si vous avez vu l'échange assez extraordinaire. On était avec Eric, ouais. On a parlé de rats, notamment. juste à la sortie de l'Etihad, où il s'est arrêté devant nous dans sa voiture. Et écoute, il a un moral absolument fantastique. Ça, c'est pas nouveau. C'est sa personnalité qui est d'ailleurs tellement attachante. Et on espère qu'en effet, il pourrait revenir...
Avril?
Fin mars, début avril.
Ok.
Ce qui serait pas une mauvaise nouvelle pour Manchester City, et ce qui serait encore moins une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France.
Ok.
On est bien d'accord.
Tiens, question. À ce poste-là.
question, Philippe, de.
Oui, je suis moins inquiet pour Manchester City, moi.
Question sur le hashtag RMC Live de Ram Deuter qui te demande s'ils sont pas pris trop tôt, finalement.
C'est un fan de Thomas Müller, c'est son surnom. Ram Deuter.
Et ben voilà.
Pris trop tôt.
Est-ce qu'ils sont pas pris trop tôt, les Citizens?
Non.
Pourquoi?
Absolument pas. Je pense qu'ils ont eu comme le disait Pierre, je pense qu'ils ont déjà eu leur période de creux. C'est cette période où ils avaient du mal contre Southampton, par exemple, où ils ont gagné vraiment, mais ric-rac, but de Sterling très très tard. Ils avaient du mal physiquement, ils n'étaient pas totalement là. Ils ont des blessés, les blessés vont bien revenir un jour, parce que on a parlé de Mendy, ouais. Mais il y a aussi John Stones, qui est un joueur super important dans leur fonctionnement, qui est meilleur que les
deux
arrières centraux qui sont en ce moment. Il y a Vincent Kompany, bon lui c'est toujours un petit peu là, il y a toujours un point d'interrogation. Bon, il y a David Silva, on va pas s'attarder sur la question, mais qui pour l'instant est absent de l'équipe, on ne sait pas pour combien de temps. Mais malgré tout, quand il y a des absents, tu ne le sens absolument pas dans le rendement de l'équipe. Je dis bien, tu ne le sens absolument pas. Kun Agüero est pas bon, il y a Gabriel Jesus. Gabriel Jesus et Kun Agüero sont pas bons, il y a Raheem Sterling qui d'un coup devient faux numéro 9. Et puis n'oublie pas que t'as un gars qui s'appelle Bernardo Silva qui est pas franchement une crêpe, qui est là sur le banc de touche et puis qu'on va voir beaucoup plus à mon avis dans la seconde partie de la saison.
Et puis Philippe, de temps en temps t'as un petit pied de Bruyne aussi qui a 20-25 mètres mais un petit bout.
Oui, mais lui je sais pas ce qui se passe dans sa tête. C'est une euphorie. Mais en ce moment il y a pas de joueur qui me donne davantage de plaisir.
Il va finir avec le Ballon d'Or, ce garçon. Ouais, c'est pas possible.
Bah, s'il continue comme ça, absolument. En ce moment c'est autre chose. Il est franchement à un autre niveau.
Il est aussi efficace qu'élégant.
Oui. Et c'est un vrai footballeur. En plus, il est vraiment foot. Je sais pas. C'est une merveille. Mais il y en a d'autres comme ça. Moi, je pense Fernandinho, par exemple, la saison qu'il est en train de nous faire. Mais bon, c'est Fernandinho. Les meilleures qualités de ce qu'on voyait au Shakhtar. Et les meilleures qualités du Fernandinho qu'on avait vu plus défensif ensuite avec Mancini et avec Pellegrini, c'est les deux ensemble et c'est franchement enthousiasmant.
Et le gardien aussi.
Et Dorsen, c'est pas mal. Hein.
Ouais, c'est bon. Il pourrait jouer mieux,
Moi, j'aimerais bien qu'on parle d'autres choses en Angleterre parce que bon, j'ai vu un magnifique Liverpool par exemple.
On va y venir, dont
on parle très peu parce que. Oui, pardon.
On va y venir, Philippe. Juste avant, je demande leur avis aux autres.
Dans l'Olympique Simonet, notamment. Cette anecdote, j'ai regardé ces matchs, j'ai regardé un bout de ces matchs avec le commentaire italien de Sky Sport. Il y avait Paolo Di Canio au commentaire. Et sur le but de Brun, elle était tellement enthousiaste qu'elle a dit si jamais demain. Je suis propriétaire d'un club. Lui, c'est le premier joueur que je veux. Devant Messi, il y a Messi, Cristiano. Mais moi, s'il y a un joueur que je veux aujourd'hui, c'est Kevin De Bruyne. Et ça, pour dire, c'est quelqu'un qui s'enthousiasme pas généralement beaucoup sur les joueurs.
Il y a des choses qui montent, Philippe.
Qui montent très très haut, je veux dire.
Mais ça monte très 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 haut. Les cinq derniers matchs, il a été cinq fois homme du match. Et il y a une fois peut-être David Silva, à mon avis, méritait plus que lui, mais c'était il y avait photo finish. Non, mais il est simplement à un niveau extraordinaire. Je prie parce qu'il représente. Je pense en plus c'est un joueur qui peut représenter tout ce qu'on aime dans le football parce que c'est un joueur qui a des qualités individuelles franchement incroyables, notamment des qualités d'intelligence du jeu, mais c'est également un joueur qui incarne à merveille les valeurs collectives qui sont celles qu'on a de plus chères dans le foot.
C'est un joueur qui fait tout le temps ce que dicte le jeu, quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'il s'inscrit dans n'importe quel collectif.
Il comprend plus vite que tous les autres.
Exactement.
Sa qualité de passe, on en parlait avec des copains, on se disait, mais qui est-ce qui a eu une qualité de passe comme ça dont on se souvienne? Je te parle pas de niveau, Messi supérieur en dribble, Ronaldo plus ceci, etc. On pense pas à ça. Mais les deux joueurs qui nous venaient à l'esprit quand on en a parlé,
c'était
Michel Platini, le grand Michel Platini qui avait cette qualité de passe. Qui était capable de faire des passes à l'aveugle. Et l'autre joueur auquel je pense, c'est Dennis Bergkamp, pour la qualité de passe, notamment les passes longues.
Ouais, c'est vrai.
Et
Riquelme et Iniesta, non, Philippe.
Iniesta est plus dans le jeu court.
Dans la passe
Modric.
Modric, c'est pas mal, oui.
Modric, c'est pas mal du tout. On passe, tu voulais en parler à Liverpool qui continue de flamber.
De régaler en ce moment, oui. Équipe complètement inconstante.
Victor 4-0, on le rappelle.
Oui, complètement imprévisible avec un très grand Philippe Coutinho. J'aimerais savoir d'ailleurs ce que l'on a dit du côté de l'Espagne parce que on sait que Barcelone continue de songer à Philippe Coutinho. Il a été superbe, absolument magnifique. C'était pas un match évident à jouer au départ. On pensait que Liverpool, qui souvent des problèmes en déplacement, allait peut-être tomber sur un os. Pas du tout. On a vu un grand Coutinho, on a vu un excellent Roberto Firmino, ce qui augure également très bien pour l'équipe du Brésil, pour la Coupe du Monde. On a vu une équipe de Liverpool avec Sadio Mané de nouveau sur le banc, sans doute pour la rotation.
Pourquoi ?
Rotation, parce que tu sais, bon, en ce moment, t'as vu le nombre de matchs qu'on va jouer,
c'est vrai.
Donc tout le monde ne peut pas jouer absolument tout le temps. Mohamed Salah, bon, qui marque son but habituel, il y en a, je crois, 20 en 26 matchs, un truc comme ça. Et une équipe de Liverpool qui, de manière assez curieuse, parce que c'est une équipe qui est quand même pas équilibrée du tout. Quand tu penses à son milieu de terrain qui est pas vraiment un milieu de terrain, sa défense qui est pas vraiment une défense.
Ah non, c'est sûr.
Un gardien qui est un gardien tout en étant un gardien sans être un gardien. Enfin bref, mais par contre, quand ça va de l'avant, c'est absolument phénoménal à avoir joué et bravo. Et ça pour moi était l'équipe la plus convaincante avec Manchester City ce week-end parce qu'à côté de ça, quand tu vois les victoires de Chelsea. La victoire d'Arsenal, but magnifique.
Oh, et puis celle de United. En fait.
Et celle de United qui a été très compliquée, pour dire le moins. Oh, et puis à West Brom, après avoir mené 2-0, après quoi 27 ou 28 minutes de jeu. Et tu te dis, c'est dans la poche, pas de problème, ils vont pouvoir dérouler. Pas du tout.
Rien, mais bon.
Ils assurent au niveau comptable. Ils sont encore dans le coup. Ils sont à 11 longueurs. Chelsea assure le coup également, mine de rien. Ils sont toujours dans le coup pour, en tout cas, ils sont dans le sillage. S'il y avait une vraie catastrophe, si jamais tu avais une comète qui s'abattait sur le centre d'entraînement de Manchester City, ils sont là pour en profiter.
Ouais, enfin, celui du United n'est pas très loin, donc finalement, est-ce que la comète.
C'est exact. C'est exact. Bah, une comète, tu vois vraiment un truc, une arme de précision.
C'est plus à l'avantage des clubs londoniens, ça.
Ouais. Ou alors, qu'il arrive que Manchester City, par exemple, aille dans l'hôtel où était descendu Tottenham Hotspur il n'y a pas si longtemps et qu'ils mangent des lasagnes et qu'ils aient le même problème. que ça pendant les fêtes de Noël. Mais bon, les suiveurs font le job, mais pas de manière très convaincante. Non. Liverpool de cela est le seul qui le fasse. Et si je puis terminer par une seule chose, parce que je veux quand même laisser de la place à mes petits copains, faut pas exagérer. Il y a une performance sur laquelle j'aimerais revenir, même si ça me fait pas plaisir de voir Claude Puel se prendre 3 buts à domicile. C'est celle de Crystal Palace et la renaissance incroyable de Crystal Palace avec Roy Hodgson. Vous savez que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et un entraîneur que je respecte profondément. Il est arrivé, le club était 20e, le club avait 4 matchs, 4 défaites, 0 but marqué. Ils sont maintenant sortis de la zone de relégation avec la meilleure série de résultats dans leur histoire en Première Ligue. 7 matchs sans défaite, c'est quand même assez remarquable ce qui se passe dans ce club.
Il y a d'autres dinosaures d'ailleurs qui font du bon boulot en Angleterre, je veux dire des dinosaures sur les bancs, notamment Allardyce à Everton.
Ouais, Allardyce, nouvelle victoire ce soir. 3 buts à 1, bon, c'est contre Swansea, ça compte pas. Enfin, ça compte parce que ça fait 3 points, mais Swansea en ce moment, c'est le chat noir. S'il peut se passer de quelque chose qui va. Et tu sais, quand les choses vont mal, généralement, les pénalties sont sifflées contre toi, les ballons, les poteaux entrants sont des poteaux sortants et réciproquement. Et c'est ce qui se passe avec Swansea en ce moment. Prennent l'avantage à Goodison, mais se font ensuite reprendre par Everton. Avec Wayne Rooney qui marque son 10e but de la saison en championnat, les gars. Quand même incroyable, hein. Ouais. Alors qu'il était repassé sur le banc, on se souvient de ça, après un début de saison qui avait été convaincant, et puis Everton qui petit à petit revient et est maintenant dans le top 10. Donc les gens qui se moquaient de moi parce que je parlais d'Everton pour une place européenne en début de saison, me fiant au recrutement, au match de pré-saison, etc., peut-être qu'Everton te confessera dans le coup au bout du compte, comme quoi les choses changent relativement vite.
Ouais. Tiens, on me fait remarquer sur le hashtag RMC Live, puisqu'on parlait des passeurs tout à l'heure, qu'on a oublié Pirlo, Xavi, Lampard, entre autres.
Ah oui, c'est Pirlo. Non, c'est pas la même chose. Tu peux pas. Il y a des très grands passeurs, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Moi, je pourrais t'ajouter Wolfgang Overath. Bon, je sais que ça remonte, mais oui. tu peux en penser. Il y en a beaucoup d'autres, des passeurs. Bon, Emmanuel Petit a été un grand passeur également au milieu de terrain. Si on veut parler de ça, par exemple. Tu vois, par exemple.
Il y en avait un qui, s'il n'avait pas fait la fête, aurait été peut-être le plus grand. Il s'appelait José Maria Gutiérrez.
Parce que
Gutiérrez faisait des passes
aveugles. Des passes aveugles, là.
Ah ouais, mais c'était. Enfin, lui, mais bon, c'était pas un pro et il le reconnaît lui-même. Alors aujourd'hui, petit aparté simplement, je me verrai. Aujourd'hui, ça devient un super entraîneur, très strict, etc. Alors que lui, dans sa vie de joueur, il a fait tout ce qu'il fallait pour pas être un grand footballeur. Alors qu'il avait un talent, notamment de passe, absolument hallucinant.
Alors quand les braconniers deviennent châtelains, tu sais que ce sont les plus durs, hein, ceux qui mettent des collets.
Oui. Belle expression d'ailleurs, je la connaissais pas.
Allez, les avis.
J'ai inventé, c'est pour ça.
Les avis tranchés des drôles de dames continuent dans un instant dans le super football show sur AMC. L'avis de Simone Rovera dans un instant sur un entraîneur qui estime être le meilleur entraîneur italien de la planète, voilà, mieux que Claudio Ranieri notamment.
Certains
Massimiliano Allegri, voilà. Ce matin on fait ce soir on fait le best-of des passeurs, des entraîneurs, de tout. Dans un instant, donc l'avis tranché de Simone Rovera, et puis on est toujours avec David Lorto, Fred Hermel et Philippe Auclair avec Pierre Ducrot et Jonathan Macardy. 23h19, à tout de suite sur RMC et BFM Sport.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Arnaud Souk.
23h22 dans le Super Football Show, l'after jusqu'à minuit sur RMC avec Jonathan McCarthy, avec Pierre Ducrot, avec nos drôles de dames, Philippe Auclair, David Lortolari, Fred Hermel et Simone Rovera sont là, et justement ça tombe bien parce que c'est l'heure de la vie de Simone.
S'il y avait encore Leonardo, hier soir, il savait déjà qu'est-ce qui est sorti dans la Gazzetta, il appelait l'agent et te dit, vous les joueurs, les agents, tout le monde ferme sa gueule jusqu'à la fin de la saison.
Qu'est-ce qu'il est énervé ce gars?
Ça colle.
Ça colle. Simone était beaucoup moins énervé ce soir, Marco, c'est ça. À l'égard de l'entraîneur de la Juventus, sûr.
Oui, ce soir, par contre, je suis heureux, je suis joyeux, c'est bientôt Noël, tout va bien. Et je me rends compte que du début de la saison, j'ai parlé souvent des bons joueurs, je pouvais parler de Dybala, d'Higuain pour la Juve, Icardi, des Sarri qui est en train de faire un très bon travail, des Spalletti qui fait des bonnes choses. Mais s'il y a quelqu'un aujourd'hui et sur les dernières deux, trois dernières saisons qui est en train de faire vraiment du chef d'œuvre,
avec son équipe et ce qu'il permet de faire à son équipe et à son club, c'est Massimiliano Allegri. Et j'ai dit ça aujourd'hui, qui est un jour que je trouve important, parce que pour la première fois depuis 2 mois, la Juve est redevenue la favori pour les titres, au moins pour les bookmakers en Italie. Ça veut dire quand même quelque chose, même si c'est pas la vérité. Et je crois qu'en ces moments, même si on a les meilleurs entraîneurs ce monde, il y a une génération de grands entraîneurs italiens qui a fait très bien partout et qui a gagné beaucoup de titres. Aujourd'hui, Massimiliano Allegri est vraiment les meilleurs et le montre. Il a montré dans ses dernières saisons en Ligue des Champions d'être très bon, mais ce qu'il est en train de faire en Serie A mérite vraiment une explication. Parce que si la Juve est là-bas, si la Juve a un équilibre, si la Juve est capable de superer même des moments difficiles et de redresser la barre, c'est pas seulement pour les joueurs, mais pour qui choisit ses joueurs et les met sur le terrain. Aujourd'hui, je prends un exemple qui est, à mon avis, explique tout de cette saison. Il y en a plusieurs, mais un, c'est très clair. Cet été, quand Bonucci part à Milan et la Juve achète pour 15 millions Mattia De Ciglio, on croit à l'arnaque de Milan. C'est-à-dire, Milan a fait une coupe de théâtre, un mercato génial. Il a pris Bonucci et De Ciglio, qui était sifflé par ses supporters, qui n'arrivait pas plus à mettre un pied devant l'autre. On disait, bah, écoutez, c'est quoi cette histoire? C'est le Grec qui voulait De Ciglio, qu'il avait déjà eu à Milan, qui croyait en lui. Et aujourd'hui, il est en train de prendre vraiment sa position, de prendre le temps de jeu. Il devient titulaire, il devient indispensable à ses Juventus. Cette saison, il a même marqué un but. C'est la première fois sur 173 matchs dans sa carrière qu'il marque un but. Il est un défenseur latéral, mais quand même, ça veut dire que quand les choses vont bien dans une équipe où tout va bien, des joueurs qui ailleurs ne sont pas arrivé à convaincre. Je pense aussi au cas de Mehdi Benatia, qui quand est parti du Bayern, personne ne le regrettait. Aujourd'hui, elle est en train de s'imposer après une saison de transition comme, je peux dire même les meilleurs défenseurs de cette Juve. Et Allegri a beaucoup de mérites. Chaque semaine, il doit choisir. Et c'est pas simple de choisir. Attention, il y a des entraîneurs qui le font très bien. Guardiola, mais Guardiola, c'est un très grand. Il y a Zidane qui fait des choix, mais quand il y a des gros matchs, il choisit quand même, c'est top. Et chaque semaine, pour vous, peut-être on connaît pas vraiment la puissance offensive de la Juve, qui a beaucoup investi sur les secteurs offensifs cet été. Il y a 3 joueurs qui vont sur les bancs. Et 3 sont entre Mandzukic, Higuain, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado et Bernardeschi, qui est un peu les plus grands espoirs de foot italien à niveau offensif, acheté 40 millions cette
année. Et il y en a aucun qui fait la tête comme Di Maria, par exemple, quand il va sur
la Dybala a fait la tête. Dybala a fait la tête, il a joué, il était resté sur les bancs 3 des 5 derniers matchs.
Mais on s'en occupe pas.
C'est tu apprends à faire la tête. Je disais il y a la semaine dernière comment Nedved lui avait donné un avis en disant, pour être un grand joueur, il faut renoncer un peu à ta vie privée et se concentrer que sur le ballon. Si Allegri peut se permettre de faire certains choix, c'est aussi parce que derrière, il y a un club.
Il y a une autorité dans le club.
Il y a une autorité, il y a une institution.
Bien sûr.
Mais aujourd'hui, comme la saison dernière, il avait tout changé à un certain moment après une défaite à Florence. Il avait dit, je vais changer des systèmes. Il avait inventé ses 4-2-3-1 avec Mandzukic, latéral gauche, haut. Et avec ça, il était arrivé en finale de Ligue des Champions. Cette année, après un début de saison un peu raté avec les nouveaux qui n'arrivaient pas à s'intégrer, il a donné du temps de jeu quand même au nouveau. S'il a raté un match, il continue à les faire.
Il y avait beaucoup de questions quand même autour de la Juve au départ de la
Douglas
saison.
Douglas Costa, il est en train de devenir pas incontournable, mais décisive à chaque match qu'il est titulaire. Je parle même pas de Blaise Matuidi, mais je félicite son premier but de la saison hier à Bologna, qui est un joueur qui probablement c'est lui qui a fait devenir Dybala aujourd'hui en remplaçant. Parce qu'Allegri a choisi de passer en 4-3-3, parce qu'il n'a donc plus d'équilibre. Il pense toujours à l'équilibre de ses équipes. Il y a du monde qui préférerait voir tous les joueurs offensifs, tous les talents sur le terrain, tous les joueurs qui marquent des buts. Lui pense, c'est italien, c'est l'école italienne. Toujours au résultat, c'est quelque chose qui avait créé beaucoup de débats. On a parlé la saison dernière, Sacchi critiquait Allegri parce qu'il pense trop au résultat et pas à faire jouer mieux son équipe. Mais lui quand même, il arrive 2 fois en 3 ans en finale de Ligue des Champions, et je considère toujours que c'est un résultat extraordinaire parce que personne voyait la Juve arriver là-bas. Et encore une chose, si la Juve arrive en finale de Ligue des Champions, c'est pour Allegri. Et si la Juve peut acheter des joueurs à 90 millions comme Higuain, c'est parce qu'Allegri a fait faire des résultats
et aussi économique avec les résultats sportifs. Et si cet été achète des joueurs à 40 millions, c'est parce que la Juve peut les faire aussi parce qu'elle arrive en finale de Ligue des Champions. Et donc Allegri a cette aujourd'hui est reconnu être cet grand entraîneur, surtout par ses joueurs. Il gère des égos qui sont pas simples à gérer. Surtout le cas Dybala, pour à mon avis, est vraiment un chef d'œuvre de sa gestion des joueurs du talent. La seule année, quand il était entraîneur au top, il a terminé une saison qui n'a pas gagné le titre, c'était avec Milan, mais s'est trouvé les premiers Conte qui avaient une envie et une rage cette année-là, cette Juve qui était difficilement possible à superer. Et donc, plus je vois la Juve, plus je vois qu'elle est solide, elle est forte, mais surtout à l'image de son entraîneur.
C'est le coach dont rêvait Joe pour l'OM.
Tu sais à quoi ça me fait penser ? Dans toute proportion gardée, mais ce que tu disais au début, à Lucien Favre, dont on parlait tout à l'heure, qui a su faire de la gestion humaine, de la gestion tactique.
Ça permet à un différent niveau.
Toute proportion gardée, j'ai bien dit. Tiens, je me tourne vers Fred Armel, par exemple. Est-ce qu'on aimerait avoir ce genre de coach en Espagne? Alors, je sais bien qu'on a Zinedine Zidane, évidemment, au Real Madrid, on a des grands coachs en Espagne.
Plutôt en Angleterre, je pense.
En Espagne, on a de bons coachs, quand même. Hein. Je sais pas.
Non, mais je sais pas. Est-ce que ce coach dont Simone nous explique qu'il est le meilleur italien aujourd'hui sur la planète football aurait sa place en Espagne, par exemple?
Il est comme Capello, mais humain comme Ancelotti. Il a vraiment des qualités qui est une évolution, soit d'Ancelotti, soit de Capello. C'est
là, je vais pas dire que son nom était cité là pour le Real ou le Barça parce qu'ils sont pas en recherche d'entraîneur.
Bien sûr.
Il y a eu beaucoup d'entraîneurs italiens en Espagne, quoi. Mais beaucoup.
Ancelotti,
en général, ça s'est plutôt bien. Ah oui, surtout Ancelotti qui a été le meilleur. Mais enfin, Ranieri a été à Valence, il a été dans des tonnes de clubs. Alors Capello,
il a eu des titres.
Ouais, il a eu des titres, mais bon, il se faisait siffler par le public parce que c'était un football tellement moche qu'il était refusé à Bernabéu. Donc, il a gagné deux fois le titre de champion et deux fois il était viré au bout de la première saison parce que les gens ne supportaient pas de gagner 1-0 à la maison avec deux milieux récupérateurs. Voilà, c'est comme ça. Les gens exigent un football de qualité, un football technique offensif, donc ça marchait pas trop, Capello. Mais l'Espagne n'a pas de n'a pas de dogme par rapport aux entraîneurs. Il faut pas que ce soit forcément des Espagnols ou non, ils sont ouverts. Donc
la preuve.
Pourquoi
pas en Angleterre, je suis sûr que les nombres d'Allegri reviennent de plus. La saison dernière pour Arsenal revient beaucoup, mais
c'est
plus
un entraîneur aussi,
a un côté sur le marché.
On peut pas dire que les entraîneurs italiens se soient particulièrement mal comportés en Angleterre. Tu penses à Mancini, tu penses à Ranieri, tu penses à Conte.
Capello en sélection n'avait pas été si mauvais.
C'était un petit peu moins bien, mais enfin bon, Capello, non, c'est pas simplement parce qu'on n'avait pas la technologie sur la ligne de but que ça s'est fini comme ça.
moi, la vie tranchée, sur Allegri de Simone me fait penser qu'on parle pas beaucoup de cette Juve en Ligue des Champions et que finalement elle va sûrement être encore là. Quoi.
Bah ils ont tenu l'échec le Barça, si je raconte pas de.
On parlait du PSG, du Real, du Barça, de City. On parle beaucoup de City, effectivement.
Bah, la Juve au final, on en parle jamais.
On en parle jamais en Ligue des Champions.
Mais là, ça me refait penser que c'est costaud encore la Juve cette saison.
Ben oui, mais Pierre, est quand même moins solide défensivement que l'année dernière.
Regardez le retour de la Juve en Serie A. Les grandes équipes, il ne faut jamais les juger sur les mois d'octobre, novembre.
Bien sûr.
C'est à partir du mois de décembre à partir du mois de décembre, on commence à regarder un petit peu ce qui va se passer. On va se repréparer physiquement, différemment, à partir du mois de janvier, enfin une petite préparation. Et dès qu'arrive les huitièmes de finale avec des champions, là, les mecs sont au top. Parce que c'est pas possible. Et moi, ça fait quand même 25 ans que je fais ce métier. J'ai parlé avec beaucoup d'entraîneurs et tous les entraîneurs m'ont tous dit que c'est impossible d'avoir le même niveau physique et psychique durant toute une saison. Il faut forcément choisir ces moments. C'est limpide quand on voit ce que fait Pintus, par exemple, avec le Real Madrid de Zidane. Il y a des périodes comme ça, et j'ai l'impression que la Juve, c'est un diesel, quoi. Ça se met en route petit à petit, puis la Juve va finir en trompe parce que ces clubs-là sont programmés pour les matchs importants. Ouais. Et alors peut-être qu'en Angleterre, en fil, tu dis City a gagné en décembre, mais en général, on gagne pas les titres en décembre.
Ils sont tellement au-dessus, et je pense qu'ils ont déjà eu leur
Ils l'ont eu
moins bien. De la même façon que Tottenham a eu également son coup de moins bien. Alors comment ils vont gérer après le fait que nous n'ayons pas de trêve hivernale en Angleterre? Mais cela dit, c'est valable aussi pour toi, Fred, parce que vous, votre trêve hivernale elle est quasiment inexistante en Espagne.
C'est une semaine.
Ouais, c'est juste voilà.
Et puis après il y a la coupe et dès la reprise il y a deux matchs par semaine parce qu'il y a la coupe. Alors
absolument.
Qui se joue à deux matchs en plus donc.
En plus donc on va voir de ce côté-là, mais je crois que le moment faible ils l'ont déjà eu et que d'autre part n'oublions pas l'autre élément crucial quand on va parler de cette Ligue des Champions, c'est une des raisons pour lesquelles moi j'aime pas faire des pions sur la comète, c'est qu'on a un mercato qui va s'ouvrir dans quelques jours et qui peut se passer mais beaucoup de choses au niveau du mercato.
Je pense à quoi?
Je pense au fait que Alexis Sanchez, par exemple, je suis pas certain qu'il reste à Arsenal jusqu'à la fin de la fin du mois de janvier, et que Alexis Sanchez, il a joué avec la Ligue Europa, et que donc pour un gros club de Champions League, si jamais tu veux faire une belle affaire, tu vas mettre du pognon, mais tu vas récupérer un super joueur pour la phase déterminante de la saison.
Rapidement, messieurs, pour terminer sur l'Italie, Milan AC, ça se passe pas bien.
J'ai dit la semaine dernière que tout était une aspirine, et évidemment, c'est pas simplement du rhume, c'est quelque chose de plus grave, la défaite. Après se faire un peu ridiculiser dans le monde pour ce but du gardien de Benevento et avoir faire prendre les seuls points de la saison à Benevento qui est dernier, ils ont perdu 3-0 face à Verona qui est avant-dernier.
Hélas,
ce soir Gattuso a demandé d'avoir une mise au vert, on peut dire anticipée jusqu'à date, avoir pour rester concentré sur le match, c'est comme tu
peux dire, sont bien, Milanais,
c'est en punition, oui, voilà, Milanais, c'est bien, mais Milan risque vraiment de vivre une saison cauchemardesque, la saison qui devrait être de leur relance, mais on va voir, on va jouer plus les docteurs que les journalistes pour voir quelle est vraiment cette maladie du Milan, mais l'aspirine ne suffit pas.
Tu sais comment on dit, Simone, excuse-moi, mais tu sais comment on dit.
Il faut que tu renouvelles une semaine. Moi, j'accepte pas ça.
Non. Juste, tu parlais de l'aspirine pour quelque chose de plus qu'un mal de tête. En Angleterre, on dit un pansement sur une jambe de bois.
Voilà. En France, c'est un peu ça.
Allez, messieurs, on passe à l'Allemagne, la vie tranchée de David Lortolari.
Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA.
Voilà, la RDA.
Oui,
c'est ce que c'est, t'as bien connu, toi, la RDA.
Par contre, c'est une époque qui nous a marqué quand même. On était ados quand.
J'ai pas connu
les vêtements de la RDA, mais.
J'ai un objet de la ex-RDA chez moi, c'est un hygromètre qui était fabriqué du temps de la RDA.
Un hygromètre?
Un hygromètre, c'est-à-dire que ça mesure le taux d'humidité. Il est dans ma cave à vin, en l'occurrence.
On fait du vin en Allemagne?
Le problème, oui.
Non, c'est pas possible.
Qui a posé cette question?
L'overboard.
Après l'overboard, le gyro.
Écoute, je pars du principe qu'un hygromètre, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, je me suis permis de.
Non, mais la question qui a posé. On fait du vin en Allemagne.
Ah,
qui
a posé c'est toujours moi qui ai posé cette question. Mais c'était de la mauvaise foi.
Alors en même temps, David a dit qu'il était dans sa cave, mais il n'y a pas forcément du vin dans sa cave. Ça peut être de la bière.
Si, il a dit la cave à vin. Allez, vas-y, David, ton avis sur
c'est du vin et pas autre chose.
sur les entraîneurs de Bundesliga cette année.
Alors absolument, c'est l'actualité du moment qui m'inspire cela. Juste un tout petit mot, une très rapide parenthèse sur ce que disait Philippe tout à l'heure sur Kevin De Bruyne. J'ai la chance d'habiter à quelques kilomètres de la frontière belge et je peux vous dire, pour regarder le lundi soir un petit peu les extraits des débats sur les week-ends, des débats de la télévision belge notamment, ils sont en pamoison devant ce que fait Kevin De Bruyne en ce moment en Belgique. Hein, c'est vraiment c'est en long et en large et en travers, et on se met à rêver en Belgique d'une victoire en Coupe du Monde, notamment grâce à ce joueur-là. Je referme cette parenthèse. Oui, c'est l'actualité du moment là en Bundesliga, c'est la fin des matchs aller depuis ce week-end, 17 matchs. On a terminé les matchs aller puisqu'il y a 34 matchs en Allemagne sur une saison complète de Bundesliga. Et bien c'est un peu une exception cette saison. Les entraîneurs qui ont été remplacés et qui ont cédé la place à de nouveaux entraîneurs, et bien ça fonctionne. Ça fonctionne, et les meilleurs exemples, et je vais y revenir tout de suite, c'est Dortmund, évidemment, c'est tout récent, c'est surtout le Bayern, et c'est aussi le Werder Bremen, je vais m'arrêter sur ces trois clubs. Mais pourquoi c'est une exception que les entraîneurs qui arrivent en cours de saison soient en réussite? Figurez-vous qu'il y a un monsieur qui a fait une analyse très poussée depuis le début de la Bundesliga en 1963, un chercheur qui s'appelle Andreas Hoyer, qui a analysé 150 limogeages d'entraîneurs, donc depuis 63 jusqu'aux années 2010, et qui s'est aperçu, mais ça on le sait tous déjà, c'est pas un scoop, que un changement d'entraîneur en cours de saison, en fait, ça n'apporte quasiment rien. C'est-à-dire que les résultats sont sensiblement les mêmes que si vous aviez que ceux de l'entraîneur d'avant. C'est rarement bénéfique. Et avec les trois clubs que je citais là, le Bayern évidemment, Jupp Heynckes, en gros, je sais plus exactement combien il a fait de matchs depuis son arrivée, mais c'est 11 victoires en 12 matchs à peu près. À Dortmund, alors c'est amusant parce que Peter Stöger, qui venait de Cologne avec lequel il était en échec total, oui, arrive. Dortmund était sans victoire depuis 8 matchs. Pour un club comme Dortmund, ça paraît dingue. Peter Stöger arrive et tout de suite, il gagne. Alors c'était petit bras, c'était un peu défensif, c'était tout ce que vous voulez, mais n'empêche qu'il arrive et il gagne. Et surtout à Brême, et ce qui m'a inspiré la réflexion de mettre le Werder Brême dans le lot ce soir, c'est que le jeune entraîneur de Brême, Florian Kofeld, qui a 35 ans, a été confirmé dans ses fonctions aujourd'hui, ce midi. Il va donc non seulement aller jusqu'à la trêve, on y est maintenant, mais jusqu'à la fin de saison, voire davantage. C'est le directeur sportif Baumann à Brême qui a confirmé cela. Et Kofeld, eh bien, est en train de redresser le Werder Brême de façon relativement spectaculaire. Et le point commun des trois entraîneurs que j'ai cités là, Stöger à Dortmund, au Bayern Hitzfeld et Kofeld à Brême, c'est que, et ça c'est pas forcément une bonne nouvelle pour la beauté du foot, c'est que ces trois entraîneurs-là se sont recentrés vers les fondamentaux, vers un système un peu plus équilibré, un peu plus défensif.
Rigueur tactique.
Oui, peut-être. Et aussi, ça c'est une dimension qui est plus difficile à saisir de l'extérieur, peut-être une plus grande proximité managériale. C'est-à-dire passer sa main par-dessus l'épaule de ses joueurs, venir les encourager, presque leur faire des bisous si je voulais aller un peu loin. Vous voyez, c'est ça.
C'est moins germanique tout ça. Ouais.
À court terme, en tout cas, ça fonctionne. Ça fonctionnait là avec Dortmund. Alors, on n'a qu'un match de recul, donc on ne va pas s'enflammer, ou deux. Au Werder Brême, ça a déjà un peu plus de profondeur. Et puis alors au Bayern, on connaît tous les qualités de Carlo Ancelotti et on n'a pas manqué de les souligner depuis des années et des années dans l'after. N'empêche que Hitzfeld a changé un petit peu le système, a changé un petit peu l'autorité, a changé un petit peu les fondamentaux et ça fonctionne. Et donc mon avis tranché du soir, c'est cette saison, et je veux rester sur l'idée d'exception, cette saison, ça fonctionne en Bundesliga, les changements d'entraîneur sont une réussite.
Messieurs,
je peux dire que ça arrive souvent, quand même en Italie.
Excuse-moi, j'ai eu un. Excuse-moi de t'interrompre, mais tu as dit Hitzfeld, c'est Heynckes dont tu veux parler.
Oui, pardon.
Oui, excuse-moi, parce qu'avant que les tweetos se déchaînent.
C'est you, Patrick.
Attends, je commence, tout à l'heure. Tu connais rien. Je tweet, hein, tu sais comment ils font.
Tu connais rien.
Ça va, ils sont calmes,
je connais rien.
Tu m'emmerdes. Les énervez pas. Simonet.
Non, moi, je suis d'accord en voyant un résultat, ce que dit David. Après, c'est une chose qui arrive souvent en Italie. Mais je me demande, la question que je voulais savoir, c'est avant, c'était si rare ou de voir des réussites après les changements d'entraînement, parce que moi je trouve que c'est plutôt logique, plutôt normal de voir un entraîneur qui arrive, qui change les choses, seulement donne des responsabilités aux joueurs. Peut-être en Italie on en voit des tonnes de changements d'entraîneurs pendant la saison, et généralement il y a 2-3 semaines voire mois, bon après la qualité des joueurs c'est la même,
mais c'est très simple quand tu as été dans un groupe de joueurs un jour, c'est que quand le nouvel entraîneur arrive, toutes les cartes quasiment sont redistribuées, tout le monde t'as une d'un seul coup,
je dis,
tout le monde qui se met au boulot.
Je me demande en Allemagne si c'est vraiment une exception, ce que
je pense que c'est un peu pareil.
C'est quand même, en Allemagne, on est spécialiste en Bundesliga de la valse des entraîneurs. C'est quand même assez dingue. Alors je sais que Nicolas Villas, par exemple, pourrait dire qu'au Portugal, pareil, ça valse dans tous les sens. Et c'est vrai globalement dans tous les grands championnats. Mais oui, voilà. Mais souvent, c'est les dirigeants qui font valser les entraîneurs. Et on a bien constaté depuis des décennies que c'était quand même rarement suivi d'effet. C'est pour ça que je voulais insister sur ces réussites cette saison qui sont quand même remarquables pour l'instant.
Surtout des grands clubs. Bayern, Borussia, c'est rare de voir dans beaucoup des grands clubs changer d'entraîneur en ces moments de la saison, très tôt dans la saison. C'est généralement les petits, les moyennes, etc. Ouais.
Mais après, il y a certaines injustices. Enfin, sur le cas Ancelotti, quand même,
le
Bayern
n'a
pas été très classe. Quand même, faut voir que le Bayern gagne quand même la Bundesliga et est éliminé en Ligue des Champions après le plus beau match que j'ai vu cette année-là, de tous les matchs que j'ai pu voir entre le Real et le Bayern à Bernabéu, qui était, enfin, les deux matchs étaient sublimes de toute façon. Mais celui à Bernabéu, qui va en prolongation, enfin, est extraordinaire. Et voilà, il tombe contre le champion, quoi. Voilà, non plus. Donc voilà, je trouve que ça a été un peu dur.
Pourquoi injuste, Fred? Il avait perdu la main sur son groupe.
Non, mais c'est parce qu'à un moment, je trouve que les clubs doivent être plus importants que les joueurs.
Et à partir du moment où des joueurs commencent à décider, c'est un club qui est à part, Frédéric. Un ADN tellement régionaliste que je pense que certains joueurs donnent des leçons à tout le monde.
Le Bayern donne des leçons à tout le monde. Le Bayern est derrière de nombreuses enquêtes de la FIFA, etc., qui vont toucher toute l'Europe. Ne vous inquiétez pas. Et que le PSG se prépare, par exemple, parce que ce qu'il y a derrière le fair-play financier, tout ça, c'est pas les Espagnols, hein. C'est les Allemands, hein, faut pas les connaître.
Et quel rapport avec Ancelotti,
Fred, là? Non, mais attends. Mais c'est pour ça, ils donnent des leçons à tout le monde, etc. Et puis après, il y a des choses qui se font un peu bizarres. Moi, je sais, par exemple, que dans un club, tu vois, pour les questions d'image, bien sûr, tu vois, et que le Bayern s'est mal comporté avec un grand entraîneur comme Ancelotti.
Je rejoins Fred là-dessus. C'est qu'à un moment donné, si t'as une institution qui protège son entraîneur, les joueurs, ils suivent. Quoi qu'il arrive, les joueurs, ils suivent. Quand t'as des joueurs qui lâchent leur entraîneur, c'est parce que au-dessus, on leur permet de le faire. Très souvent,
voilà. Et non, mais là, c'était le cas, c'était simple, c'était Robben et Ribéry.
Très souvent, c'est
les gens prennent pas risque. Dans le dos d'Ancelotti. Donc, à un moment, ça se veut dire, dans un club que je connais bien, qui s'appelle le Real Madrid, ça se passe pas comme ça, et on va arriver là, à mon avis tranché, naturellement, vous allez voir.
Eh bien, voilà, justement, si tu veux le développer, ton avis tranché, je te conseille.
Bravo.
De me laisser la parole. C'est bientôt Noël, RMC vous guide grâce à rueducommerce.com. On a plein de cadeaux à vous offrir. C'est après.
T'aimes bien les boules, toi.
Bah, je te laisserai la.
C'est vrai?
Si tu veux, il faudra que tu te lèves et tout. Des smartphones, des ordinateurs portables, des tablettes, des overboards, un DVD, il paraît tes plus beaux buts.
Ah oui.
Ah ouais. Qui dure 45 secondes. Et c'est parfait pour les fêtes
plus
de Noël.
À Strasbourg. Plus. Un but. C'est ça?
À Strasbourg.
Tu t'en souviens?
Je sais même pas combien j'en ai marqué.
T'en as marqué un seul.
Un seul, ouais. Voilà,
enfin, d'après les statistiques de ma fiche, extrêmement bien analysées.
Je faisais autre chose.
Allez, pour tenter de votre chance, il suffit d'envoyer Noël. Par SMS au 732-16 ou d'appeler le 32-16 touche 5. Je vous souhaite bonne chance. Dans un instant, la vie tranchée de Fred Hermel dans l'after jusqu'à minuit. On va parler d'un certain Cristiano Ronaldo. Là aussi, il y a une tirelire à casser et un cadeau à s'offrir pour le Real Madrid. C'est ce que nous dira Fred Hermel. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Arnaud Souk.
L'after jusqu'à minuit sur RMC en simultané sur BFM Sport. On est toujours avec Pierre Ducroix, avec Jonathan Macardy, avec nos drôles de dames, Simone Rovera, David Lorto. J'en oublie, Philippe Auclair. Et tout de suite, c'est la vie tranchée d'un certain Fred Hermel.
Quelle est la meilleure Liga du monde? La Liga Espagnola!
Toujours en toute sobriété.
Je comprends pas pourquoi tout le monde aujourd'hui a eu un jingle sauf moi, quoi.
Non, t'es pas le seul. Jonathan Macardy n'a pas eu de jingle.
Mais moi, mon jingle, c'est Simonet.
Écoute,
il a eu le meilleur jingle,
mais c'est toi qui vas tirer les boules tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est ton cadeau
à
Gilles.
C'est vrai.
Fred, je te laisse la parole pour ton avis tranché sur Cristiano Ronaldo.
Alors justement, je vais avoir besoin de vous parce que vous connaissez mes avis tranchés. D'habitude, ils sont très tranchés et j'ai besoin de personne pour trancher. Mais ce soir, je vais avoir besoin de vous tous pour trancher. Parce que je suis un être ce soir fait de paradoxes. Parce que le début de mon avis tranché, c'est il faut absolument que le Real Madrid casse sa tirelire pour que Cristiano Ronaldo reste au club. Mais en même temps, la deuxième partie de mon avis tranché, c'est... Cristiano Ronaldo a signé un contrat. La dernière fois, c'était il y a un an et demi. Il était très content de ce qu'il touchait. Et pourquoi il a accepté de signer ce contrat? Donc, il a calé jusqu'au contrat qu'il a signé. Parce que les contrats sont faits pour être respectés. Et qu'au Real Madrid, on vient pas tous les six mois pour réclamer de l'argent comme on le fait dans d'autres clubs. Alors, mon avis tranché, il est un peu paradoxal. Je suis d'accord. Alors, je vais vous planter les
parce qu'il s'est passé un mercato entre deux.
Et voilà. Parce qu'il y a, voilà, il y a deux clubs. Alors, ça y est. Allez-y, les mecs. Prenez votre Twitter. Il y a deux clubs qui font n'importe quoi. C'est le Paris Saint-Germain qui paye 37 millions net un certain Neymar, et le Barça qui paye maintenant près de 40 millions un certain Lionel Messi en touchant zéro centime, comme on disait dans le temps, sur les droits d'image. Alors que Cristiano Ronaldo touche 17 millions net au Real, plus quelques millions en plus, etc. Mais en plus, il cède une partie de ses droits au Real Madrid. C'est-à-dire que le Real Madrid se rembourse en plus grâce aux droits d'image qu'ils exploitent pour le joueur. Donc vous imaginez. Alors Cristiano Ronaldo, lui, il était bien content avec son contrat, sauf que cet été, avec ce qui s'est passé, quand il voit que ces dernières semaines-là, t'as deux joueurs qui, selon les dernières statistiques, ont moins gagné que lui, celui-là, puisqu'il est double champion d'Europe en titre, il gagne la Liga, il a gagné 5 titres cette saison, record absolu dans l'histoire du Real Madrid, pas cette saison, en 2017, et lui se dit, mais si j'en avais encore un, mon cinquième ballon d'or, si je suis le meilleur du monde, mais pourquoi est-ce que je suis le troisième moins bien payé, enfin le troisième mieux payé, pourquoi je suis moins bien payé que Messi et Neymar? Donc il est allé voir le président, et le président a dit, mais tu fais ce que tu veux mon ami, mais c'est pas possible comme ça, hein, t'as signé un contrat, et il dit, ah, bah laisse-moi partir, bah ouais mais t'as signé un contrat, tu vas pas partir. Et
en plus en ce moment il marque moins de buts, donc...
Enfin, il a encore marqué le but du dernier titre remporté ce samedi. Donc, Cristiano Ronaldo, moi, d'un côté, je le comprends. Mais d'autre côté, ouais. Il a signé un contrat. Et peut-être s'il n'était pas au Real Madrid, il gagnerait peut-être pas autant de titres. Donc, il gagnerait pas autant de ballons d'or, etc. Donc, tout ça est très compliqué. Et j'ai du mal à trancher. Mais en tout cas, je pense quand même qu'il faut que le Real fasse un petit effort. Parce que Ronaldo a encore prouvé ce week-end que là, dans les moments importants, c'est lui qui est là. Mais et c'est lui qui fait la petite différence qui permet de tout gagner.
Moi, si je peux essayer d'aider Fred, je pense qu'il y a un entre-deux justement à trouver. Que la force du Real, c'est l'histoire qui existe entre le club et Cristiano quand même, et que l'air de rien, c'est très important. Il faut pas effectivement tout de suite succomber au désir de Cristiano, mais il y a peut-être certains gestes à faire qui vont flatter un peu l'ego de Cristiano, qui vont lui faire comprendre que le Real l'aime et veut le garder, mais que pour autant l'institution Real ne veut pas tout de suite flancher à ses désirs.
On peut prendre en compte quand même qu'il a 32 ans ce joueur aussi.
Oui, en plus
il aura 33 en février. Oui. Enfin,
ouais, en plus.
Fred, moi je veux bien que le Real.
Ouais,
le...
Non, mais, ouais.
Tu vois, enfin, quand c'est tu ça, vois, on parlait de Kevin De Bruyne, par exemple, voilà.
Oui, c'est plus l'avenir, ouais.
C'est plus l'avenir quand même que Cristiano Ronaldo.
Est-ce que tu entamerais pas un nouveau cycle, en fait?
Petite info, oui. Kevin De Bruyne,
vas-y.
Qui vient de mon ami Christophe Terreur. Il faut quand même signer d'où viennent les infos. Prolongation de 6 ans de contrat avec Manchester City, donc voilà.
Non, mais enfin bon, je citais De Bruyne, mais surtout ce que je voulais dire
ça,
par là.
C'est une info que je la prends à l'instant.
Est-ce que le Real, c'est une question que je pose à Fred, mais parce que est-ce que le Real ne serait pas bien inspiré, ou pourquoi pas, ce serait pas une option d'entamer un nouveau cycle? T'as quand même des joueurs qui sont quand même bons dans ton effectif. Cristiano va avoir 33 ans. C'est encore un joueur qui est ultra performant, mais son comportement de toujours vouloir pleurnicher pour un salaire qui est pour un plus gros salaire.
C'est moi que Neymar.
Il a négocié l'an dernier.
Alors oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je trouve que le Real peut pas céder. Mais en même temps, on dit c'est la fin de Cristiano Ronaldo. Mais on voit avec sa manière en plus de gérer son corps, etc.
Oui, c'est ce que j'allais te dire.
Mais c'est ça. C'est-à-dire que. T'as vu ce qu'il a fait? Il en a mis 5 au Bayern en 2 matchs en quart de finale des champions.
Neuer,
le meilleur gardien du monde.
Personne n'a dit le contraire. Vas-y, Pierre.
Non, j'allais dire, Fred, tu vas nous le dire mieux que nous, parce que t'es là-bas sur place et presque au quotidien. Tu vois les entraînements, etc. Mais là où je différencie moi Cristiano Ronaldo, c'est que c'est une bête de travail et que dans le groupe du Real, il est très très important.
Tu peux pas faire un seul coup. Par rapport à ce que dit Pierre, c'est hyper important. Parce que quand tu t'appelles Marco Asensio, jeune joueur, mais qui va devenir un des meilleurs joueurs du monde s'il continue comme ça, mais il s'entraîne tous les jours aux côtés de Cristiano Ronaldo. T'imagines la progression que ça fait? C'est-à-dire que Cristiano Ronaldo est l'exemple de tout le monde au quotidien. Et Cristiano Ronaldo, il est important sur la pelouse pendant les matchs, mais aussi sur la pelouse à Valdebebas au centre d'entraînement.
Ouais,
et donc, c'est vraiment hyper compliqué pour le Real. Parce que de l'autre côté, il y a aussi un mec comme Ramos, qui est quand même pas n'importe qui dit, mais moi aussi j'ai gagné ces titres-là. Moi, peut-être, il faudrait peut-être qu'on m'augmente aussi.
Fred...
Et puis Gareth Bale, s'il revient bien, là, parce qu'a priori, ça va mieux dans sa tête, ça va mieux dans son corps, il va peut-être dire, ah bah, et moi aussi. Et Karim Benzema, bah, moi aussi j'ai gagné tous ces titres, et moi aussi je suis là depuis longtemps. Je trouve ça très
Fred,
compliqué.
Tu sais ce qui sera, à mon sens, je sais pas, hein, mais je pense que ce qui va être très dur, ça sera juste de se dire au revoir entre le Real et Cristiano. Il faudra bien qu'ils aient un moment ou un autre. Et je pense que, pour le coup, ça se finira très très mal.
Mais oui, bien sûr. Bien sûr,
ça peut que ce mal se finir.
Mais ça s'est fini mal avec Raoul, Alfredo Di Stéfano, avec Raoul.
Ça s'est très bien terminé avec Zidane.
Ouais, mais Zidane, pourquoi c'est
pas terminé? Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose comme ça pour Cristiano?
Mais oui, mais parce que Zidane, c'est Zidane. Parce que Zidane, il est parti, il a renoncé à 6 millions nets, qui était le salaire des Galactiques à l'époque, parce qu'il a dit non, moi je trouve que j'ai plus la forme, j'ai plus la flamme, et tout ça, ça sert à rien que je me traîne sur le terrain, donc je peux faire partir. Et par contrat, il pouvait toucher, il a dit non. Parce que c'est un mec honnête et qui, c'est notre façon de fonctionner.
Et est-ce qu'on peut imaginer ça avec Cristiano?
Non, dans
2 ans.
Parce que Ronaldo, sincèrement, Ronaldo, c'est pas un mec qui est obsédé par l'argent.
Mais qui est son
conseiller? C'est un mec qui est obsédé par l'amour. par, obsédé par la tendresse, mais vraiment.
Et ben c'est, justement, Fred, justement, quand tu dis qu'il n'est pas obsédé par l'argent, peut-être qu'à un moment donné, la, l'amour du Real entre lui et
il considère que l'argent qu'on lui donne, c'est une preuve. Façon d'une preuve d'amour.
C'est une caresse.
Et,
vraiment,
et en plus, bien je sûr. Connais un petit peu maintenant, et j'ai encore eu la chance avec le grand Thierry Marchand de faire l'interview officielle du Ballon d'Or pour France Foot. Et quand, il est touchant ce type, et tu sens que il est, c'est pas le mec obsédé par l'argent. Et Mendes, il a plein de défauts, mais il va jamais mettre en danger la carrière de Cristiano Ronaldo pour une question d'argent. C'est pas Papa Neymar, c'est pas Papa Messi. C'est autre chose avec Cristiano Ronaldo. Et donc, je pense que moi, j'aimerais pas que ça se termine mal parce que ce type-là.
Ça se terminera mal,
tous les records de l'histoire du Real Madrid. Et ce type-là, il a finale de Ligue des Champions contre la Juve qui avait pris 2 buts pendant toute la compétition et lui tout seul en met 2 en finale. Sur une sur deux périodes de 45 minutes quoi. Et ça fait 3 ans qu'on attend son déclin, qu'on parle de son déclin. Il y a des petites périodes un peu plus dures, mais dès que les matchs importants sont là, c'est lui qui fait la différence.
C'est une machine.
Donc je souhaite de tout cœur qu'il
peut remercier Zidane d'ailleurs solution. En la matière hein, parce que c'est lui qui a appris à manager.
Aussi. Ouais, mais c'est aussi l'intelligence d'un joueur de savoir écouter quelqu'un qui est bien sur bien le banc, qui peut avoir une autorité sur lui, Fred. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont refusé de faire ça.
Et d'ailleurs, Fred, dans ton avis, on peut aussi inclure le Zidane et enfin l'influence de Zidane là-dedans aussi. Ça peut jouer.
Oui, d'ailleurs. Tu parlais Pierre des petits, je crois que c'est toi qui disais des petits messages que devait envoyer le Real pour adoucir la situation. Bah, Zidane a commencé samedi soir quand on lui a posé la question après la victoire en Coupe du Monde des clubs sur le est-ce que Cristiano doit rester. Nanana, il dit mais moi je prolonge son contrat tout de suite. Mais bien entendu c'est le meilleur de l'histoire, c'est le bonheur de l'avoir là et tout ça. Donc voilà, il y a une petite opération de com qui commence à être lancée. Mais je peux vous assurer que Cristiano Ronaldo est très très en colère contre le président Florentino Pérez.
Merci Fred Hermel.
Salut.
On remercie également Simone Rovera, David Lorto et Philippe Auclair d'avoir été avec nous. T'as vu
hein, merci, on apprend des trucs. Ah ouais.
Passionnant, hein, franchement.
Bon, Pierre, il paraît que c'est ton anniversaire ce soir.
Eh oui.
Tu sais qu'il y a un petit jingle.
Happy birthday to you.
Oh. Ça, je sais pas si c'est jingle. C'est jingle pour Pierre ou pas
c'est Philippe en live.
C'était le jingle pour jingle. Pierre.
Fabuleux. Ah, si tu veux, tu pourrais peut-être Marilyn pour Pierre.
Allez, comme c'est ton anniversaire, Pierre, happy birthday to you.
Je t'invite à venir tirer les boules. C'est le grand jeu de Noël.
Le grand Noël RMC.
Ah ben, je pense que tu as le droit de bouger la boule de Gilbert. C'est Ahmed, notre premier gagnant, qui nous appelle de Gonesse, dans le Val d'Oise. Salut Ahmed.
Salut les gars, bonsoir.
Bon, j'espère pour toi que Pierre Ducrot va avoir la... Voilà, t'es tombé sur la boule de Gilbert Bribois, tu vois, t'es à la maison.
En haut de la pile en même temps, donc...
Tiens, tu te rapprocheras du micro. Ah, tu veux que je le lise ?
Vas-y.
Oh, c'est beau. Tu gagnes un ordinateur portable HP, voilà.
Nickel, ben, merci joyeux beaucoup Noël. Les gars. Bonne soirée, bon joyeux Noël.
Merci joyeux beaucoup. Noël à toi également. Chantal qui nous vient d'Albi dans le Tarn. Bonsoir Chantal.
Bonsoir à toute l'équipe et bon anniversaire à Pierre.
Ah bah il est ravi.
On attend bien que vous venez pas de Paris.
Ah non, je viens pas de Paris. Donc.
C'est la boule de François Sorel, Chantal.
Ah ouais.
Vous auriez préféré Gilbert, c'est ça ?
Non, vous vous en foutez, c'est surtout
ce qu'il y a dedans.
Ah
ben
bah, là aussi j'ai un ordinateur portable HP.
Ah bah super.
Ah ben voilà, ah, joyeux Noël. Non, c'est fini, Pierrot.
C'est fini.
C'est dommage. Bonne soirée, Chantal, et joyeux Noël.
Bonne soirée, joyeux Noël. Au revoir.
C'est trop bien qu'on peut faire Noël.
Ah ouais, t'avais envie de continuer.
Ça fait du bien d'offrir aux gens.
Ah, qu'est-ce que c'est beau là. En plus, t'as l'impression que ça vient de toi alors que.
Oui. Alors qu'en fait, t'as pas dépensé un rond pour cette histoire.
Toi, t'es tranquille avec ta tablette.
Ouais, voilà. Ouais.
Et t'es studieux, hein. T'es quand même le premier et seul consultant des RMC à avoir ton petit stylet à noter. À noter, ce que les gens disent.
Mais j'apprends, moi tous les lundis, tous les dimanches, j'apprends des drôles de dames, etc. Donc je note.
Elle dit beaucoup quand même.
Allez, merci beaucoup, messieurs. Merci à nos drôles de dames. Merci Jonathan Macardi.
Merci Arnaud.
Merci Pierre Ducrot. L'After revient évidemment demain sur RMC 22h. Très bonne soirée à tous.
Le Grand Noël RMC avec rudecommerce.com. RMC, le super football show, l'After Foot.